mission. Mission. Ça veut dire être envoyé. En fait, mission, c'est ce qui nous tombe dessus quand on devient chrétien. Il n'y a pas besoin d'une autre convocation. À partir du moment où on devient chrétien, on adore un Dieu missionnaire. Un Dieu missionnaire. Le premier missionnaire, c'est Dieu. Comme le Père m'a missionné, je vous missionne. Vous connaissez ce passage biblique ? Est-ce que je triche avec la Bible ? Nous avons lu tout à l'heure, Jean nous y a invités. Car celui que Dieu a missionné dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Je ne triche pas non plus. Le premier qui est missionnaire, c'est Dieu. Quand nous prions, au fond de notre cœur, nous prions un Dieu missionnaire. Mission. Il y a des églises qui ont un comité de mission, mais ça triche avec la réalité. C'est bien qu'il y ait un comité des choses au loin, mais mission, c'est la nature même de l'Église. Elle est missionnée, elle est dans le monde. C'est pourquoi il y a trois verbes qui caractérisent mission. Je ne veux pas vous rendre savant, mais les trois verbes en grec, c'est koinonia. Ça veut dire partage, communion, différence, qualité de présence. Là où il y a Dieu, il y a de l'amour. Mission, c'est pas d'abord prendre mes affaires, quitter ma réalité, c'est être dans ma réalité d'une certaine manière qui reflète Dieu. Mission. Le deuxième, que nous connaissons tous parce que nous l'associons avec mission, c'est kérigma. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus et de son programme, de Jésus et de son royaume. Mon rêve, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons simplement là où nous sommes, capables, quand on nous demande la raison, capables de dire le simple évangile avec joie. C'est l'épître de Pierre qui nous dit, afin que lorsque les gens vous demandent raison de l'espérance qui est en vous, pourquoi ils nous demanderaient raison de l'espérance qui est en nous? Simplement à cause de notre manière de vivre différente, typique de Jésus. Alors vous êtes des apprentis, moi aussi. L'Église le sera jusqu'à la fin de sa vie. Mais étant apprenti de l'amour, les gens, voyant la différence, vous diront, pourquoi tu fais ça? Et alors tu répondras, parce que je suis un chic type. Ah non, justement pas. Si on ne témoigne pas, c'est ce qu'on dit. Si on ne témoigne plus de la grâce de Dieu, on dit implicitement, non pardon, c'est de ce côté, c'est moi. Vous comprenez? Rendre grâce à l'œuvre de Jésus en des mots tout simples. C'est être capable de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Koinonia, qualité de présence. Kérigma, capacité de dire la grâce de Dieu en Jésus. Ce sont des mots qui peuvent être complétés et qui doivent être complétés par un autre et un troisième. Diakoneo. Le service. Mes amis, voilà le programme, c'est si simple, si accessible à tout le monde, qu'il n'y a même plus besoin de programme missionnaire à côté de ça, puisque c'est le programme missionnaire. Maintenant, il faut quand même un programme missionnaire, parce qu'envoyer des gens très loin dans une autre culture, ça ne s'apprend pas intuitivement comme ça. Est-ce que vous seriez capable de dire ce que diaconéo signifie? il y a des mots rapprochants en langue française. Servir à table. Servir l'autre pour que la communion s'établisse. Vous savez que même le psaume 23 est missionnaire. Qui peut me dire dans le psaume 23, le psaume du berger, vous connaissez le psaume du berger, le Seigneur est mon berger, l'Éternel est mon berger. Ça termine comment? Autour d'une table. Et que dit le psaume? Tu dresses. Oh. Vous convoquez les adversaires à manger avec vous. Vous vous rendez compte? Le pouvoir de réconciliation qu'il y a là-dedans, c'est pas moi je mange et les adversaires ils vont mourir devant vous à table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires que j'invite à manger avec moi parce que je veux gagner mes adversaires. J'aime la réconciliation, je veux qu'on s'explique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire en disant « L'Église n'a pas de besoin de programme missionnaire, elle est mission. » Ça, on l'oublie. Un jour, un jeune Maurice, qui était soldat, vient d'Égypte et nous évangélise. Saint Maurice. Merci, Seigneur, pour l'Église égyptienne qui nous a apporté la justice et la vérité. Un jour, il y a le douteur Thomas qui est envoyé par le Seigneur, mais pas vers l'Europe, comme ce que le Nouveau Testament nous rapporte, mais ce que justement la Bible ne nous rapporte pas, ce sont les apôtres qui sont partis vers l'Éthiopie et qui sont partis vers l'Asie mineure. Thomas, évangélisateur des Parthes, c'est-à-dire des Iraniens de l'Est, Iraniens de l'Est jusqu'en Inde et au sud de l'Inde, du temps de Thomas, c'est-à-dire avant 70 après Jésus, on avait reçu l'évangile avant les Helvètes et les Gaulois. Ça ne vous rend pas un peu jaloux? Ça ne vient pas de chez nous, ça vient d'ailleurs, ça vient du Seigneur. Et pourtant, des régions peuvent avoir reçu l'évangile. Il y a une église nombreuse, comme dans le sud de l'Inde, mais dans d'autres provinces, c'est difficile, surtout quand on change de religion. Et comme tout le monde est religieux là-bas, il y a des problèmes. On en entendra parler. Anne Michaud a été en Inde, a été en contact avec l'église là-bas, nous apprendra quelque chose. Je m'en réjouis. Parce qu'une région donnée peut avoir reçu l'évangile, et par des facteurs différents, peut l'avoir quasiment comme oublié, et il faut recommencer. La mission s'est jamais finie jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Que Dieu nous trouve en train de faire ce qu'il a voulu que nous fassions. Je termine avec une lecture et une considération avant. Quand Dieu choisit le particulier, c'est en vue du tout, parce que Dieu aime le monde. Il ne désire qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Quand Dieu choisit Abraham, c'est pour bénir les nations. Quand Dieu choisit Sarah, c'est idem. Quand Dieu choisit l'Église, c'est pour être lumière et sel du monde. Qu'il en soit ainsi. J'ai fait un petit exercice et je termine là-dessus. Frères et sœurs, un petit défi. Relisez le livre des Actes des Apôtres. Et posez-vous une question. Pourquoi les chrétiens se réunissaient-ils dans le Nouveau Testament? Vous avez compris la question? Pourquoi les chrétiens se réunissaient-ils dans le Nouveau Testament? D'accord? Vous relisez tout le livre des Actes et chaque fois qu'ils se réunissent, vous dites pourquoi? Vous êtes? C'est un petit défaut d'un formateur, c'est donner du travail. Relisez dans cette perspective. Vous serez étonné que non seulement ils allaient à la synagogue et au temple tant qu'il existait, mais également ils se réunissaient pour se rendre compte que l'œuvre de Dieu était plus vaste que ce qu'ils pensaient jusqu'à présent. Je termine avec cette lecture avant de vous demander si vous avez retenu quelque chose de ce que j'ai dit. Paul et Silas sont invités à rendre compte d'abord dans l'église qui les a envoyés, c'est-à-dire les anges. Oui, mais vous, c'est l'église que je demande plus généralement. Oui, c'est juste, Antioche. La grande église missionnaire pendant le premier siècle n'était pas de langue grecque, elle était de langue syriaque. On ne se rend pas compte. Hein. Paul et Silas sont invités à rendre compte d'abord à Antioche, et ensuite les Antiochiens leur disent « Oui, mais nous, on est envoyés par le Seigneur Jésus, et les apôtres sont à Jérusalem. Paul et Silas, allez rendre compte à Jérusalem. Vous y êtes ?» Il y a une église encore aujourd'hui, vous savez, il n'y en a pas 36 000. Il y en a une. Je vous fais la lecture. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'église, les apôtres et les anciens, et les mirent au courant de tout ce que Dieu avait réalisé par eux. Quelle belle formule ! Ce que Dieu a réalisé par eux. Des fidèles, issus de... Des fidèles, ça veut dire des chrétiens, hein ? Des juifs messianiques, si vous voulez. Issus de la mentalité pharisienne, ça existe, ça ? Qui ont codifié la vie, d'accord ? Ils ont des fossiles vivants dans la tête, là. C'est la vie fossilisée, hein ? Des fidèles issus du pharisaïme intervenirent alors pour soutenir qu'il fallait circoncire les païens, les hommes bien sûr, hein, et leur prescrire d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Donc c'est une histoire missionnaire ça, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de la mission ? Comme la discussion était devenue vive, c'est l'église primitive, hein, Pierre intervint pour déclarer, vous le savez frère, c'est par un choix de Dieu que, dès les premiers jours et chez vous, les nations païennes ont entendu de ma bouche la parole de l'évangile et sont devenues croyantes. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage quand il leur a donné comme à nous l'Esprit Saint. Et les païens ont reçu l'Esprit Saint. Ça, vous ne savez jamais sur qui ça tombe. Sans faire la moindre différence entre elles, les païens, nations, et nous, c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. Dès lors, pourquoi provoquer Dieu en imposant à la nuque des disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons-nous été capables de porter ? Encore une fois, c'est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été sauvés exactement comme eux. Pas plus, ni moins, j'ajouterai. Il y eut alors un silence dans toute l'assemblée. Puis, on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu, par leur intermédiaire, avait accomplis chez les païens. Alors écoutez, à notre tour, et c'est mon plaisir d'accueillir Anne, d'entendre quelque chose du vaste plan de Dieu aujourd'hui dans d'autres cultures. Anne, juste avant, pouvez-vous me redire les trois mots qui font partie de la mission ? Koinonia, communion. Kérigma, l'annonce simple de l'évangile. Diakonia, que Dieu nous bénisse dans l'accomplissement de notre mission.
Alors, je continue, mais j'aime ce fil rouge qui est vraiment l'amour du Père qui envoie Jésus jusqu'à nous. Et je voulais commencer comme ça, je le dis quand même, mais au culte passé, Claude nous avait encouragé à mettre en route la bonté. Et ça m'avait beaucoup touchée, j'avais beaucoup aimé cette façon de dire les choses. Et je me suis dit, quand on est parti en Inde, donc on est parti début octobre, 10 jours en Inde, c'est cette femme-là, c'était pour mettre en route la bonté. Donc nous sommes partis avec une association qui s'appelle MPART, et donc qui travaille dans le nord de l'Inde, où il y a justement peu d'églises chrétiennes, et disons, c'est la mission là-bas grandit vite et grandit vraiment par les Indiens qui forment des églises et il y a quand même un partenariat avec nous et moi je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a cette possibilité pour des hommes et des femmes d'aller là-bas sur un court terme et d'aller encourager soit les formateurs, les bâtisseurs d'églises, ils appellent ça comme ça, ou d'aller encourager les femmes. Alors, quand on va encourager les femmes, c'est des femmes qui vont, donc c'est pour ça que là, il n'y a que des femmes, mais il y a aussi des voyages qui sont faits où les hommes peuvent aller. Donc, nous sommes partis, ces 7 femmes, on ne se connaissait pas toutes, il y en a même, je pense, qui connaissaient personne. Et ce qui était magnifique et qui va aussi dans ce qu'on a entendu avant, c'est qu'on a pu vivre pendant 10 jours ensemble et vraiment de façon aimante. Et c'était incroyable de pouvoir être authentiques les unes avec les autres, d'être soutenantes, encourageantes. Et il n'y a pas eu un conflit et un problème entre nous, et rien que ça, je trouve que c'était déjà la présence de Jésus au milieu de nous qui fait des miracles. Alors, donc, on a été au nord de l'Inde, on a été à Calcutta d'abord, donc ici, et puis la conférence, elle était à 12 heures de train de Calcutta, donc plus bas, ici, en face, au bord de la mer de Bengale, en face de la Birmanie, donc là. Et donc on a passé 2 jours à Calcutta, et ce qui est frappant en Inde, c'est le monde. Alors vraiment, par rapport à la Suisse, c'est presque choquant, il y a des gens partout, et j'ai envie de dire, ça grouille de vie. Et quand on revient ici, c'est presque un peu, ça manque, disons, ça manque. Et donc on a pris le train pendant une journée, c'était vraiment une longue, longue journée. Et on est arrivé dans ce centre de conférence et je vous montre juste cette photo par rapport aux femmes. J'aurais voulu qu'il y ait toutes les femmes ensemble dans cette salle, mais je n'avais pas de photo pour montrer ça. Mais pour vous dire que ces femmes, il y avait 45 femmes indiennes qui étaient là. Et que même si elle parlait, elle disait peut-être que quelques mots en anglais, et qu'avec la plupart, on a eu vraiment un partage non-verbal, mais pas tellement verbal, on s'est vraiment senti sœur en Christ. Et ça, c'était vraiment quelque chose de beau. Et puis la conférence. Alors la conférence donc durait 3 jours, et le but de ces conférences, c'est de montrer aux femmes la valeur qu'elles ont. Et en Inde, en particulier, il y a une mentalité où, disons, le statut de la femme, il est vraiment misérable. Et les femmes, elles entendent depuis toujours qu'elles valent rien du tout. Et ces conférences, pendant 3 jours, elles entendent le contraire, que Dieu les a tellement aimées et qu'elles ont de la valeur à ses yeux et que Jésus est mort pour elles. Et c'est... Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas seulement 3 jours, une fois dans leur vie, mais que c'est des conférences qui ont lieu sur 5 ans. Donc c'est 3 jours par année, mais sur 5 ans. Et Christine Gallet, que beaucoup, voire tout le monde connaît ici, a fait faire ce drapeau qui visualisait qu'une femme qui se lève, hein, la première qu'on voit avec qui tient le drapeau, voilà, ça marche plus, tant pis. Alors, vous voyez le drapeau, une femme qui se lève à la suite du Christ, et le Christ il est dessiné là-dessus par un lion et par un agneau. Elle va tirer derrière elle d'autres femmes qui se lèveront, et de plus en plus, puis on voit comme de la terre tout à droite en bas, et c'est comme si les femmes sortaient de terre à la suite de Jésus, les unes après les autres. Et à tour de rôle, on a apporté ce qu'on avait apporté. On avait toutes des compétences différentes. Puis c'est ça qui était intéressant. Donc on a parlé de comment on avait compris notre valeur à la suite du Christ. Et puis voilà, on a fait de façon différente. L'après-midi, il y avait aussi des ateliers. Il y avait 3 ateliers parallèlement. Et il y en avait 2 sur ces 3 qui étaient créatifs. Et le but, c'était que les femmes puissent faire quelque chose qui leur reste et puissent être fières de leur créativité. Donc là, on voit Valéria qui montre comment peindre ou broder ces sacs qu'elle avait apportés et que les femmes ont pu prendre avec elles après. Donc, elles étaient vraiment contentes. Et quand on a présenté les 3 ateliers, elles se sont précipitées à celui-là. Je pense que le sac les intéressait bien. Il y en avait un autre où on décorait un cahier. Et puis le troisième, c'est moi qui l'animais. Alors, il n'y a pas de photo, mais là, c'était plus utiliser mes compétences à moi. Et c'était de la santé primaire. C'était parler du corps de la femme et de l'homme aussi, pourquoi pas. Et puis, parler de la prévention, traitement de la diarrhée. On a parlé des brûlures, des blessures, on a fait des bandages, elles se sont faites des bandages les unes sur les autres. Je leur ai montré par rapport à la désinfection aussi comment faire. Et tout ça, c'est quand même un programme donc, qui est établi par MPART et c'était dans le programme. Donc ça tombait bien pour moi. Et puis le matin, j'ai pu parler aussi de quelque chose qui me tient plus à cœur encore, peut-être que les brûlures ou la diarrhée, c'est la fécondité. Donc j'ai pu leur parler, parce que donc, je suis sage-femme, et j'ai pu leur parler de la valeur de la femme, dans le sens qu'elle est source de vie, enfin elle est porteuse de vie, et donneuse de vie, et que quand on peut porter la vie physiquement, hein, alors là on voit un bébé derrière, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais hein, on peut être enceinte et apporter la vie comme ça, mais on peut aussi être donneuse et porteuse et donneuse de vie spirituelle, émotionnelle, sociale aussi. Donc je trouve que c'est très encourageant pour les femmes. Et puis là, on voit les responsables, alors surtout les 4 qui sont à droite. Je vais voir maintenant si peut-être j'arrive à... Oui. Ce monsieur qui s'appelle Johnson, il a été avec nous pendant les 10 jours. Il est venu à l'aéroport de Calcutta et il est resté avec nous jusqu'à ce qu'on reparte 10 jours plus tard. Et c'était vraiment tellement intéressant de ce qu'il nous a partagé, de la culture, de tout ce qu'on ne comprenait pas. Et il nous a aussi partagé, mais alors de façon tout à fait informelle, comme ça, comment il s'est converti, comment Dieu lui parle. Et c'est tellement super de voir qu'on est frères et sœurs et que la culture, c'est une chose, mais que vraiment, le royaume de Dieu, il est large. Et moi, ça m'a vraiment élargi ma compréhension du royaume de Dieu. Et puis, à côté, c'est sa femme qui s'appelle Jay-Z et elle a traduit, en particulier à mon atelier là, de santé primaire. Et elle, je ne savais pas, mais elle était très, très intéressée à ça. Elle donne des cours déjà à des jeunes filles d'hygiène, de soins de base. Alors, c'était chouette parce j'ai pu lui donner tous les bandages que j'avais pris, les désinfectants. Et puis, en particulier, un livre qui a été écrit sur les soins à donner quand il n'y a pas de médecin. Alors, un livre vraiment bien fait. Elle était très contente de l'avoir et puis elle va pouvoir dispatcher ça. Et puis au milieu, pas tout à fait au milieu, mais y arriverai-je ? Non. Donc la première femme depuis la gauche, c'est celle qui a traduit alors toute la conférence. Et c'est une femme vraiment vive, intelligente, qui savait très très bien l'anglais et qui traduisait vraiment de façon à ce que ça soit fluide, ce qui n'est vraiment pas évident. Parce que nous, on ne parlait pas toutes très bien l'anglais et puis on avait des accents terribles. Mais enfin, ça suivait tout à fait. Alors, je ne sais pas si elle a dit vraiment ce qu'on a dit parce que ça rend humble d'avoir un traducteur. Mais en tout cas, ça roulait. Et puis ça, c'est alors l'ensemble des femmes c'était la fin de la conférence. elles allèrent partir, donc elles avaient encore 9 heures de bus pour arriver chez elles. Et voilà, ça permet de vous montrer, disons, l'ensemble des participantes et puis oui, la bonne ambiance qui régnait. Alors, on peut se dire, mais pourquoi aller si loin pour 3 jours de conférence? Alors, je vais vous dire ce que ça m'a apporté à moi et puis peut-être, enfin, ce que je pense que ça a apporté aux femmes là-bas. En tout cas, pour moi, déjà d'expérimenter ou d'entendre la voix de Dieu par rapport à ça, c'était une expérience parce que je ne pensais pas du tout aller en Inde. Mais, il y a une petite graine qui a été semée, qui a mis longtemps à grandir, mais tout à coup, j'ai compris que Jésus m'invitait à y aller. Il ne me forçait pas, j'avais vraiment le choix, mais qu'il me donnerait Enfin, j'ai reçu une parole qui m'a habitée, qui était « Ne crains rien, je serai avec toi et je te bénirai ». C'est dans Genèse, je crois, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a parlé fort et que j'ai vécu. Donc, je me suis dit après, si je n'avais pas été dans ce que le Seigneur me demandait, je n'aurais pas vécu ça et ça aurait été vraiment dommage. Donc, je trouve que c'est très intéressant d'obéir à Dieu quand il nous propose quelque chose ou quand il nous demande quelque chose plus fermement, parce que ça vaut la peine. Et puis, une autre chose, c'est la communion fraternelle, parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots pour dire ça, mais entre notre groupe de femmes, c'était vraiment quelque chose qui était très stimulant. Et puis aussi la communion avec nous ici, parce qu'il y a plusieurs personnes avec qui j'avais partagé avant, qui ont prié pour moi, qui ont prié pour nous, qui ont prié pour les femmes. Et je trouve que c'est tellement encourageant de vivre la communion du corps de Christ, qui est tellement large. Hein. On peut être ici et faire en sorte que ça se passe bien là-bas, puis on peut être là-bas, et puis grâce aux autres, on vit des choses fortes. Et puis, les femmes là-bas, je pense qu'elles ont été touchées quand même, que des gens viennent de loin pour être avec elles pendant 3 jours. Ce qui est super, c'est que dans le groupe, il y en avait 2 qui étaient déjà venues 2 fois. Donc, la plupart des femmes, elles connaissaient déjà ces 2 femmes. Et quand j'ai vu, quand elles ont reçu ces femmes, quand elles se sont vues et qu'elles se sont serrées dans les bras, la joie qu'elles avaient, je me suis dit, alors rien que pour ça, ça vaut la peine. De voir aussi que nous, on vient d'une autre culture, on était quand même très, très différentes, mais que c'était tellement simple de communiquer aussi dans le non-verbal. Ça, j'ai trouvé aussi que c'était fort. Et je pense que quand même, c'est ça le royaume de Dieu, le fait qu'on est frères et sœurs, c'est que même si la culture est si différente, il y a quelque chose de fort qui nous unit. Enfin, c'est Jésus Dieu est notre Père à toutes, et puis ça se sent, quoi. Et puis la dernière chose, c'est de voir ces femmes qui vivent pendant 3 jours ensemble. Elles logeaient dans un grand dortoir, enfin dans plusieurs dortoirs quand même, mais elles ne doivent pas avoir souvent l'occasion de vivre ensemble comme ça, entre femmes, et de pouvoir partager. Et je pense qu'elles ont beaucoup reçu de cette communion-là, enfin d'être ensemble pendant 3 jours. Et ces femmes, elles ont des grands défis quand elles rentrent chez elles, parce que leur situation personnelle est souvent difficile, mais en plus, elles sont chrétiennes, et disons, chez nous, il y a d'autres enjeux quand on est chrétien, mais là-bas, suivant où elles habitent, il y a vraiment la persécution, donc elles doivent avoir beaucoup de sagesse pour vivre leur foi de manière sage et en même temps, j'allais dire héroïque, c'est peut-être pas le bon mot, mais donc Voilà, en tout cas, je prie pour ces femmes, je prie aussi pour les responsables de ces conférences, oui, pour qu'elles puissent avoir l'influence qu'elles doivent avoir là où elles vivent. Je m'arrête.
Merci. Merci beaucoup, Anne. C'est très touchant de voir comme quoi tu as entendu la voix de Dieu, tu as obéi, tu as été béni et tu nous as fait du bien aujourd'hui, tu nous as encouragé. Il y avait une fraîcheur, une sincérité qui était touchante. Nous allons poursuivre dans cette dynamique par un temps de prière pour l'Inde, pour le monde, pour notre pays, en cette journée d'élection aussi. Et pour introduire ce moment de prière communautaire, nous allons entendre une version filmée du psaume 8, qui est un psaume qui ouvre au monde, qui nous montre l'amour de Dieu pour l'ensemble du monde.
Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée. Par la bouche des enfants, des tout-petits, rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre.
Oui, qu'il est grand par toute la terre, et nous allons rebondir avec des sujets de prière qu'Anne a préparés pour l'Inde. Puis ensuite, nous allons aussi prier pour le monde dans sa globalité, comme le psaume nous encourage à le faire, que Dieu est au-dessus de tout le monde. Nous allons prier pour l'Afrique du Nord, l'Égypte, pour les chrétiens d'Égypte qui sont persécutés. Nous l'entendons régulièrement, c'est un gros problème pour l'Afrique du Nord. Toute la question de la Libye, que la réconciliation règne dans ce pays, pour qu'il puisse se reconstruire. Toute l'Europe aussi, nous avons, vous savez, il y a deux congrès importants pour sauver l'euro, mais quand on sauve l'euro, on sauve l'Europe, puisque c'est l'argent qui domine. Donc toute la question de l'Europe est un jeu, des grands enjeux aussi pour la Suisse, pour les élections fédérales. Nous avons dans cette salle un candidat, donc nous avons aussi beaucoup de personnes qui sont engagées politiquement dans notre Assemblée. Prions aussi pour notre pays, pour que ces élus puissent faire sa volonté. Et nous avons aussi, j'ai vu qu'il y a des Français dans la salle aussi, de la politique française, qui fait que peut-être, il y a peut-être des changements en vue, au moins une nouvelle élection présidentielle. On sait en France l'importance d'un président. Aussi prier pour ce pays qui est voisin, pour que derrière tous ces projets, tous ces changements, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et nous allons maintenant lire deux sujets concrets. Anne, peut-être tu veux les lire? Pour l'Inde.
Oui, donc je vous propose qu'on prie pour les femmes qui ont assisté à cette conférence, pour leur retour après dans leur foyer, pour les responsables et pour qui vont préparer les conférences suivantes, donc les responsables que vous avez vus sur les photos. Et puis la troisième chose, je n'en ai pas parlé, mais dans mercredi prochain, en fait, il y a une équipe de 10 femmes d'ici qui partent alors de l'autre côté de l'Inde, juste à côté du Pakistan, et qui vont aussi assister à une conférence de femmes comme j'ai été moi. Et on peut vraiment prier pour eux aussi, pour l'équipe d'ici qui part, et pour les femmes là-bas qui vont vivre ces 3 jours.
Alors merci, nous avons entendu plusieurs sujets de prière. Maintenant, je vous invite, pas des prières courtes, à haute voix, de prier pour notre monde que Dieu aime tant.